Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Chers auditeurs, chères auditrices, cet épisode... Je ne l'ai pas écrit, je vais vous parler comme ça. J'avais une invitée prévue, mais je la sortirai dans 2 semaines. Et au départ, je m'étais dit, en fait, je ne vais pas pouvoir sortir d'épisode. Puis je me suis dit, si, j'en suis capable, allez Rosa. Et en fait, je n'arrivais pas à faire semblant. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire en intro ou en outro? Comment je vais pouvoir leur dire, ça va? Je ne savais même pas comment j'arriverais à le jouer. Ça va, je savais pas comment faire semblant trop. Et puis je me suis dit, mais si je sors pas d'épisode, comment je l'explique? Est-ce que je leur dis que j'ai des soucis de santé? Mais les gens vont s'inquiéter, vont me demander ce que c'est. Si je dis c'est pas grave, ils se demanderont quand même, mais qu'est-ce qu'elle a? Donc j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, est-ce que c'est impudique de parler? Mais ça fait des mois que de toute façon c'est dur de parler, sur plein d'autres sujets aussi. Mais au moins celui-ci m'appartient. Voilà, on est dimanche 5 mai. Lundi dernier, j'ai fait une fausse couche. J'étais à 2 semaines... de mon échographie du premier trimestre. Voilà. En fait, j'en parle, c'est aussi politique. C'est parce que j'ai beaucoup souffert et je crois que j'avais besoin de plus de paroles sur ça. Donc je me dis que peut-être, moi en témoignant tout de suite... Peut-être, on sait jamais, si un jour une femme m'entend et fait une fausse couche, elle pensera à cet épisode et peut-être que ça lui fera moins de peine à elle. En fait, ça fait un peu plus d'un an qu'on s'est rencontrés avec Mickaël. On s'est rencontrés en mars 2023. Mais très tôt, je lui ai fait part de mon désir. Je lui ai dit, voilà... Là, le 9 mai, jeudi prochain, je vais avoir 35 ans. Et je lui disais, j'ai envie. Et il connaissait mon projet de congeler mes ovocytes. Mais je lui ai dit, voilà, même sans ce projet, j'ai envie... Je rêve d'avoir un bébé. J'ai envie d'être maman. J'ai envie que ce soit ça, ma vie aujourd'hui. Voilà. Mais Mickaël, il est un peu plus jeune que moi. Il va avoir 32 ans. Mais bon, il a compris, voilà, que mon désir était très fort et on s'était dit au bout d'un an qu'on essaierait. Et puis, moi, à force de lire des articles sur les perturbateurs endocriniens et le changement climatique et tout ce qu'on bouffe, les poils Tefal et tout ça, à force d'écrire mes chroniques inter sur les limites planétaires, à vrai dire, je pensais que ça mettrait du temps, en fait. Je pensais que... que ça pouvait mettre 6 mois, 1 an avant de tomber enceinte, ou même peut-être... Donc je me disais, c'est aussi pour ça, quoi, je voulais pas trop qu'on attende. Puis j'ai commencé à regarder les périodes où j'ovulais, donc c'est 1 ou 2 jours dans le mois. Et je me suis rendu compte que la période où j'ovulais, c'était plutôt fin février ou fin mars. Et donc j'ai réussi à négocier avec Mickaël... qu'on commence à essayer fin février, quoi. Et je suis tout de suite tombée enceinte. Et Mickaël était super heureux, on était super heureux. Enfin, c'était un peu différent, c'était... Je crois que moi, sur le moment, quand j'ai attendu et que les règles sont pas venues, et qu'on a acheté... le test... quand j'ai vu qu'il était positif, que j'étais enceinte, j'ai... ressenti des trucs très forts. J'ai eu l'impression que j'avais le droit de faire partie de la vie. J'ai eu l'impression que la vie pouvait être douce pour moi aussi. J'ai eu l'impression que j'avais de la chance. J'étais super heureuse. Et peut-être que Mickaël, il a eu un peu peur au début, qu'il n'arrivait pas trop à y croire. Puis ensuite, au fur et à mesure du temps, il s'est énormément attaché à l'idée. Et même souvent, à la fin, il touchait ou il embrassait mon ventre. Parce que ça, je vous parle de ça d'il y a 3 mois, en fait. Parce que, en fait, je m'imaginais, là normalement, mi-mai, j'allais faire le test, l'échographie du premier trimestre, puis j'allais attendre ensuite encore une 20aine de jours, mais bon, je m'imaginais que peut-être c'était le mois où j'annoncerais que je suis bien enceinte dans mon podcast sur les réseaux sociaux. J'avais hâte de pouvoir l'annoncer parce qu'en fait j'étais fière et puis parce que je me disais que je voulais tout relier à ça, en fait, dans ma carrière. Que ce projet était tellement important que, en fait, j'ai tout relié à ça. Donc j'ai mis, en fait, un peu en stand-by l'exploitation traditionnelle de mon nouveau spectacle. Parce que je me suis dit, mais peut-être que c'est possible de faire un special et de capter mon spectacle enceinte mi-octobre, un mois avant d'accoucher. Et puis ensuite, voilà, et puis ensuite, j'en écrirai un autre puisque j'aurai tellement de choses d'autres à raconter une fois que j'aurai eu le bébé. Bref, je m'étais projetée super loin et résultat, j'ai appelé les théâtres pour les dates à la rentrée sur octobre, novembre, décembre et je leur ai dit, mettez tout en pause, quoi, annulez ou... Je leur ai dit certains, voilà. Et puis, en fait, je savais qu'il y a un risque de grossesse. Je savais que c'est une femme sur 6. On a fait une première échographie au tout début. C'est une femme sur 6 qui fait une fausse couche dans les 3 premiers mois. Donc, c'est énorme. Mais en fait, je savais le chiffre, mais tant que ça t'arrive pas à toi, tu penses que ça arrive aux autres, quoi. C'est... Et au tout début, on a été quand même super prudents, on l'a dit à personne. Au départ, on a fait une première échographie pour vérifier que voilà, il y avait que j'étais bien enceinte. Et puis même si c'était juste un embryon, en fait, on imaginait quand même sa forme avec le début de petite tête et le début de petits pieds, enfin en fait on l'a très vite humanisé, même si c'est, il n'y avait pas de sexe, et encore évidemment, mais... Et ensuite quand il y a eu l'échographie où on a entendu son cœur, c'était vivant quoi. Donc moi ces 3 derniers mois j'ai... Mes seins qui ont grossi, mon ventre qui a grossi, j'ai pris un peu de poids et mon corps a changé. J'ai commandé les vitamines de début de grossesse. Et puis j'ai mis les crèmes. En fait, ça y est quoi, j'étais... En fait, même j'ai commencé à en parler un peu autour de moi, des copains. En fait, j'étais... Et puis là, comme mon anniversaire allait arriver le 9 mai et que... J'avais même avancé l'échographie du premier trimestre d'une semaine. Je l'avais mis pour le lundi 6 mai. Et comme mon anniversaire, c'est le 9, mais qu'il y a des ponts, on avait des amis de passage à Paris venant d'Espagne le 5. Donc on s'est dit, je vais faire mon anniversaire, on avance le 5 et puis je le dirai à tout le monde. Bon, c'est peut-être pas prudent. En fait... Je sais pas si c'est prudent ou pas de... Mais on était tellement sûrs, quoi, que... On s'y attendait pas du tout. Et... Au final, je regrette pas parce que... Quand j'ai annulé mon anniversaire, qui devait avoir lieu aujourd'hui, en fait, je l'ai dit à tout le monde. Et c'est en le disant à tout le monde que j'ai reçu autant de messages de femmes à qui c'est arrivé, ou d'amis à qui c'est arrivé, ou de... Mais je le savais pas, en fait, que la mère d'une amie, avant d'avoir son fils, avait fait des... En fait, je le savais pas. J'apprenais que plein de femmes dans mon entourage avaient fait des fausses couches, mais je le savais pas avant, je le savais pas. Je le savais, c'est des... Je le savais pas, voilà. Et j'ai pensé à un truc, en fait, cette semaine. Je me suis dit, mais attendez, quoi, j'ai l'impression de... d'avoir vu des centaines de films sur les doutes d'un homme marié qui hésite entre sa femme et sa maîtresse. J'ai l'impression de pouvoir totalement être en empathie avec lui. Et j'ai jamais vu un film sur une femme qui fait une fausse couche. En fait, j'ai vu que une dramatisation de ça, de femmes qu'on pousse du haut d'un escalier, quoi. Pour des besoins scénaristiques, mais j'ai jamais vu l'histoire de ça, j'ai jamais vu ça, même pas, je sais même pas si j'ai lu un bouquin où c'était ça au cœur de l'histoire. Donc voilà, je pense au manque de récits. On m'a donné un jour pour si je voulais prendre un jour d'arrêt maladie. Puis en faisant des recherches, j'ai vu que... Enfin, je dis peut-être des conneries, hein, mais j'ai vu que je crois que c'est passé juste là, en mars, en fait, l'arrêt maladie pour la fausse couche, que c'est hyper récent. Mais je sais pas comment elles faisaient les meufs avant, en fait. Donc en fait, voilà, c'est parce que j'ai l'impression que c'est un tabou et qu'on n'en parle pas, que j'en parle aujourd'hui, moi, même si c'est très tôt. En fait, je me suis dit peut-être qu'il vaut mieux en parler une fois que tu seras de nouveau enceinte. Mais une fois que je serai de nouveau enceinte, bah, j'aurais peut-être peur de faire une fausse couche, et même jusqu'au bout, même jusqu'au 8e mois. Et puis... Donc ça veut dire qu'il faut en parler quand, en fait? Il faut en parler qu'une fois que tu as eu des enfants, qu'une fois que tu... Pour quoi? Pour avouer qu'il y a eu un échec avant? Je me suis dit, bah, j'ai pas besoin d'avoir une bonne nouvelle pour dire qu'il s'est passé un truc dur avant, en fait. J'ai pas besoin de toujours positiver ou mettre en scène la réussite. Peut-être que c'était trop orgueilleux de m'imaginer déjà les photos que je ferais enceinte, que je mettrais sur les réseaux sociaux. Et en même temps, je vous avoue que j'ai été aussi très dure envers moi-même cette semaine, donc j'ai pas non plus trop envie Enfin, ceux qui comprendront ma démarche, tant mieux, les autres, tant pis. Lundi, j'ai commencé à perdre du sang, lundi dernier. Et au départ, c'était juste un petit saignement marron, mais dans ma tête, tout de suite, je me suis dit « Oh non, je fais une fausse couche !» Parce que j'étais stressée, pour plein de raisons. Et j'envoie un texto à ma gynéco, je lui dis « J'ai des petits saignements marrons. » Elle me dit « Bah... une femme sur deux en a pendant sa grossesse et c'est juste un peu... Si c'est pas rouge-rouge, c'est pas grave, mais dans le doute, n'hésite pas à faire une échographie. Va à l'hôpital en urgence, je suis au Bleuet. C'est une super maternité dans le 12e. C'est une super maternité. Et j'ai pas voulu attendre, en fait. J'ai tout de suite... j'ai pris un Uber et j'ai mis l'adresse et je suis allée au Bleuet aux urgences. Mais je me suis dit, bon, c'est juste une petite vérification, c'est juste un petit peu de sang marron. C'est juste, je voulais vérifier, je voulais être tranquille, en fait. Je voulais juste au moins me rassurer là-dessus, quoi. Donc je suis arrivée là-bas et puis j'ai dit, voilà, ma gynéco m'envoie. Ok, il faut aller au deuxième. Ok. Et donc il y a une jeune femme, une gynéco interne qui est au début... super sourire, super belle et très gentille, qui me dit « Ok, on fait une échographie d'urgence, on va y aller. » Donc elle commence à mettre le petit produit là sur le ventre et la sonde sur le ventre. Puis elle me dit « Vous avez envie d'aller aux toilettes, non ?» Je dis « Oui. » Elle fait « Ok, pour être plus sûre, peut-être aller aux toilettes. » Donc je suis allée aux toilettes faire pipi, je suis revenue. Elle a remis la sonde sur le ventre, peut-être que je dis pas les bons mots, hein, pour faire l'échographie, elle a remis la sonde, puis en fait, je crois qu'elle n'était pas sûre de ce qu'elle voyait. Donc moi, j'attendais. Elle m'a dit, ok, on va faire par l'intérieur, on parvoit par le vagin. Donc ensuite, elle a rentré la sonde. Enfin, elle était très super délicate, attentionnée, en me demandant si je voulais le faire moi-même. J'ai dit non, elle l'a fait, enfin, c'était pas douloureux. Et puis à un moment, j'ai cru entendre un son. Donc j'ai dit, ah, c'est lui qui respire. Elle m'a dit, attendez, il faut que je poursuive l'examen. Donc ensuite, j'ai pas plus voulu l'embêter. Ça mettait du temps. Puis elle m'a dit, il faut que j'aille demander une vérification. Elle m'a dit, je suis interne, il faut que j'aille demander une vérification auprès du gynéco en chef. Donc elle est partie le chercher, j'attendais. Et là, je me suis retrouvée seule dans la chambre et j'ai prié Dieu, auquel je crois pas. Je priais, j'étais là, Dieu s'il vous plaît, Dieu s'il vous plaît, Dieu s'il vous plaît. En fait, dans mon nouveau spectacle, je dis que je crois pas en Dieu et je fais des blagues comme quoi Dieu n'existe pas. Et là, je me suis excusée auprès de lui, j'étais là, je vous jure, si vous m'aidez sur ce coup-ci, je croirai en vous pour toujours et je ferai plus jamais aucune blague, je changerai les blagues dans mon spectacle, promis, je ferai des blagues comme quoi vous existez. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc je priais, j'étais là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puis elle est revenue avec le chef gynéco, quoi. Et puis il a poursuivi l'examen. Et il m'a dit, il n'y a plus de cœur. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais c'était horrible. J'arrivais pas à y croire. Je lui ai demandé 15 fois, vous êtes sûr, c'est pas possible, vous êtes sûr, mais comment c'est possible, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils m'ont expliqué que c'était juste chromosomique, que, en fait, jusqu'à la fin, en fait, que jusqu'à 3 mois, bah, c'est tout petit en fait, ça a la taille d'une framboise quoi, et que, enfin là, ça avait et que en fait c'est très fin, et que c'est des chromosomes, que c'est des spermatozoïdes, des ovocytes qui se mélangent, et il suffit qu'il y ait un bug et ça fait foirer le truc quoi, et que c'est pas héréditaire, c'est pas génétique, c'est pas mes chromosomes ni ceux de Michael, c'est la formation de l'embryon qui est. Et que ça arrive très souvent, que c'est une femme sur 6. Et j'ai tout de suite été prise de culpabilité. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi? C'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai fait? Et l'interne, elle m'a pris les mains, elle m'a dit, c'est pas de votre faute. Elle était très humaine, très compréhensive. Ils ont pris le temps pour m'expliquer les démarches à suivre. Et puis après, j'ai eu aussi dans la soirée au téléphone ma gynéco et je lui ai reparlé de que je me sentais coupable. Et elle m'a dit, mais c'est pas ton stress. En fait, elle m'a dit, il y a des femmes qui sont enceintes suite à un viol, des femmes qui sont enceintes pendant la guerre. Donc en fait, c'est pas ma faute, quoi. C'est médical. Je lui ai dit à la gynéco, parce que je l'ai revue vendredi pour faire le rendez-vous avec l'anesthésiste et faire l'échographie de vérification, je lui ai dit mais que j'avais une voix dans ma tête qui me disait il est parti parce qu'il avait l'impression de te gêner. Parce que j'ai peut-être décroché un projet pour cet été et que peut-être la grossesse l'aurait compromis. Et je me suis dit, est-ce qu'il est parti pour me faciliter la vie? Et la gynéco m'a dit, ça c'est de la pensée magique en fait. Il faut pas rajouter du psychologique à la science en fait, à la médecine. Et en fait, tout ce qui m'a aidé cette semaine, bah, c'est le féminisme quoi. Parce que parfois, le féminisme, ça me fait souffrir. Parfois, j'ai l'impression d'être un peu blasée quand les mecs se comportent mal. Mais quand les femmes se font du mal entre elles, ça m'atteint beaucoup. Et j'avais un peu parfois perdu foi en la sororité. Mais ce qui m'a vraiment aidée, de manière très égoïste, ce qui m'a consoler, c'est le fait de d'être tellement pour que les femmes puissent avorter depuis, voilà, qu'en fait je me suis dit mais je suis encore à un stade où les femmes avortent, donc en fait je peux pas humaniser ce qui n'a pas à être humanisé. Et ça m'a aidé. Je me suis dit, je vais pas humaniser, c'est pas encore un bébé. Mais je savais pas, mais toutes les expressions étaient dures, parce que fausse couche, perdre un bébé, bah non, il n'y a pas encore de bébé, mais enfin, pour nous, il y en avait un. Mais quand Mickaël, il est venu me rejoindre lundi soir à l'hôpital, bon bah, vraiment, ça a été horrible, parce qu'il a beaucoup souffert, et que moi, de le voir souffrir, ça m'a vraiment brisé le cœur. Et en fait, le lendemain, mardi, on avait une date de tournée à Aix-les-Bains, parce qu'il m'accompagne en tournée. Et j'ai pas voulu l'annuler, parce que j'avais besoin d'être sur scène, parce que j'ai besoin de mon travail dans ma vie, en fait. C'est, en fait, sinon, j'existe pas, quoi. Et je voulais pas annuler, en fait. Je voulais pas qu'on reste à la maison à pleurer, je voulais qu'on oublie un peu. Et c'est ce qui s'est passé. Mardi soir, on a pu oublier. Mais en fait, moi, ils m'ont proposé de prendre les médicaments, mais en fait les médicaments, il y a un risque que ça mette jusqu'à 7 jours, et qu'ensuite il faille quand même aller à l'hôpital, et donc il y a un risque hémorragique, donc c'est dangereux d'être loin de Paris. Donc finalement j'ai pas opté pour les médicaments, mais en fait mercredi 1er c'était férié, et en fait il faut 48 heures entre le rendez-vous à l'anesthésiste et l'opération. Donc au final j'ai fait le rendez-vous avec l'anesthésiste vendredi, et j'ai l'opération là, lundi 6 mai. Donc, j'ai l'aspiration à la place du rendez-vous de mon échographie du premier trimestre, quoi. Et au moment où je vous parle, j'ai toujours l'embryon à l'intérieur de moi. Et toute la semaine, j'ai perdu beaucoup de sang. Enfin, j'ai pas fait d'hémorragie, mais juste, c'est plus long que des règles. Et c'est... C'est bête, mais c'est aussi hormonalement. J'ai eu un bouton qui est apparu et j'avais l'impression que tout mon corps et tout était chamboulé. Apparemment, les saignements peuvent durer encore 7 à 10 jours après l'opération. En fait, j'ai mis du temps à vous parler de ma congélation d'ovocytes, donc j'aurais pu garder ce temps pour le faire plus tard. Je sais même pas au moment où j'enregistre cet épisode si je vais le diffuser, mais... J'en ai parlé à Mickaël, il m'a dit « Fais comme tu veux ». Mickaël, il m'a même dit « Si t'as besoin, ce qu'on a de prendre des antidépresseurs ?» Parce que je vous avoue que j'ai eu des pensées très noires cette semaine. Mais je vais pas reprendre des antidépresseurs, parce que les antidépresseurs, c'est ce qui m'a empêché de vivre, d'écrire, de faire du stand-up, de créer. Et qu'il y a des moments où ça va mieux, il y a des moments où je sais que ça ira mieux un jour, il y a des moments où je sais qu'on, voilà, qu'on ira mieux, mais... Mais il y a aussi un vide qui s'installe, qui fait perdre un peu foi en tout, quoi. J'ai quand même rappelé les théâtres pour essayer de sauver des dates que j'avais annulées en novembre-décembre, pour pouvoir quand même donner une vie, une chance à mon spectacle. Et il y a une directrice d'un théâtre, alors que je lui ai raconté, elle savait pour le projet que j'étais enceinte, et ensuite elle a su pour la fausse couche, et avec les filles qui m'aident à la prod, elle a quand même envoyé un mail pour essayer de négocier, de faire baisser le prix du spectacle. Et donc c'est pour ça que parfois je peux pas crier sororité sur les toits, parce que, mais ça m'attend tellement venant de femmes, cette violence, En fait, je me suis aussi souvenue qu'il y a plein de fois où j'ai été triste et où je vous ai parlé dans ce podcast et où ça m'a aidé beaucoup. Que ce podcast, c'est ce que j'ai de plus précieux avec la scène, mais la scène et le stand-up, ça dépend de tellement de gens autour. Il y a tellement de désirs à solliciter, de directeurs de théâtre à Paris, en tournée, de diffuseurs, de directeurs de chaîne, de journalistes. Il y a tellement de gens qui doivent croire et parier, qui investir. Le podcast, en fait, Même si vous êtes plus que deux à m'écouter, ce sera toujours deux, quoi. Ça dépend que de moi, d'un Zoom. Pour mon anniversaire, j'ai demandé un nouveau Zoom, donc mes amis se sont cotisés, je vais avoir un super Rodecaster Pro. Et personne ne peut me virer de mon propre podcast. On aura toujours ce lien direct. On n'a besoin d'aucun intermédiaire pour être en contact. J'ai juste besoin de parfois mettre des pré-rolls pour la pub pour gagner un peu de sous avec, mais là je vais pas en mettre pour cet épisode parce que ce serait vraiment cynique là d'être interrompu par une pub. J'espère que vous en entendrez pas, parfois c'est la plateforme qui en diffuse, mais normalement je peux faire en sorte qu'il n'y en ait pas, je vais bien vérifier. Si vous en entendez une, bah je suis désolée, c'était... Je fais tout toute seule, donc... Je sais pas si certains auditeurs se souviennent de mon épisode Les fleurs pour Sarah Silverman que j'avais enregistré aux États-Unis, à Los Angeles. J'étais encore célibataire et j'ai une amie qui venait d'être trompée par son amoureux et j'avais un ami très cher qui avait perdu sa petite sœur qui s'est suicidée et moi, je vivais ça, et en même temps, j'allais voir Sarah Silverman sur scène, donc j'étais dans un état. Et j'avais enregistré un épisode dans la nuit pour me demander si j'aimais trop, et puis vous m'aviez envoyé des messages pour me... C'était super, enfin, on avait vraiment... Je vous demande... ne pensez pas que vous devez m'écrire ou quoi. Rien que le fait de... Je sais que parfois on se rencontrera... C'est très fort après le spectacle quand on se rencontre et je sais que vous êtes là. Mais en tout cas, ça m'avait aidé. Puis même, je me souviens, pendant les confinements, à un moment, j'avais fait une longue intro. Ça aurait dû être un épisode solo parce que donc, l'épisode derrière arrivait 25 ans après. J'ai honte pour l'invité. Où je racontais une histoire de cul. D'avoir baisé avec un mec qui m'avait dit que j'étais pas belle. Je sais pas si c'était l'épisode avec Elvire Duvel-Charles. J'ai jamais réécouté, mais je me souviens que Laurent Pécariel, l'éditeur de mon premier livre, m'avait vachement félicité pour cet épisode. Alors qu'il était d'une impudeur, enfin, je racontais un truc qui venait de se passer, quoi. On aurait pu me dire, mais non, mais t'es folle de te livrer, il faut se protéger. Mais ça fait tellement de temps déjà que je suis silencieuse sur plein de choses. Je saurais même pas par où commencer. Mais vous pouvez imaginer évidemment que la situation au Proche-Orient me plonge dans des états de désespoir, que je suis parfois très triste d'avoir l'impression qu'on oublie un peu les otages, et en même temps catastrophée parce que Netanyahou fait les images des... des soldats israéliens qui tirent sur les Palestiniens à Gaza, qui se ruent vers les convois humanitaires parce qu'ils crèvent de faim. Bon, je pourrais jamais m'enlever ces images de la tête. Enfin, c'est un massacre. Ça me tue, franchement, ça me tue. J'en ai eu des disputes avec des amis, avec des gens venus dans mon podcast qui m'ont trouvé trop silencieuse. Je sais pas comment j'aurais pu faire mieux, plus justement, plus... J'essayais de faire venir Valérie Zenati et Delphine Orvillor pour qu'elles aient des paroles apaisées et réconciliatrices de convergence des luttes. Moi, toute seule, je sais pas parfois quoi faire, comment dire, je sais pas, j'ai relayé les messages des guerrières de la paix pour que les femmes palestiniennes et israéliennes et iraniennes et ukrainiennes, j'essaie. Je suis super inquiète là à l'idée que Guillaume Meurice puisse perdre son emploi à France Inter. Là, je sais pas comment bien en parler, mais je trouve que tout ça va trop loin. C'est aller tout de suite trop loin. Et je sais pas comment j'aurais dû m'exprimer pas ce qu'il est venu dans mon podcast, mais il y a tellement de choses si compliquées qui vont mettre du temps pour que je parle. Il y aura peut-être un livre, voilà, sur plein de choses. Mais peut-être qu'aujourd'hui, le fait de m'exprimer sur cette fausse couche, ça sert à quelque chose. Je sais que je suis pas la première ni rien. Je sais qu'au début de la grossesse, j'ai écouté le podcast Bliss et il y a des femmes qui ont parlé de fausse couche dedans dans les épisodes. Mais d'ailleurs, j'en ai écouté deux, puis j'ai arrêté d'écouter parce qu'en fait, ça me déprimait trop, quoi. Je voulais pas, moi, enceinte... Enfin, le podcast est super, mais je pouvais pas entendre ces récits-là. Mais donc, je savais, hein. Mais même si je savais rationnellement, ensuite, il y a quelque chose d'organique où on veut voir le beau. J'avais envie d'avoir confiance en la vie. Donc voilà, c'est pas un moment facile pour moi. J'ai des problèmes de, je pense, de santé mentale qui, résultant en temps de crise, ressortent. Je pense que j'ai du mal à avoir une juste idée de qui je suis et de quelle est ma valeur. Je pense que parfois, j'ai trop d'orgueil, j'ai trop d'ego, je fais peut-être des bêtises, des mauvais choix. Et parfois, je manque terriblement de confiance. Et là, vous pouvez l'imaginer, ça a été plus une semaine où j'ai perdu confiance et, en mes choix, en tout. En n'importe quel choix que je faisais, des choix liés à la thune, des choses liées à ma valeur où je me suis trop discréditée tout le temps sur plein de... Je peux pas rentrer dans les détails, mais après j'ai un psy, voilà, je vais faire le travail nécessaire pour combattre ces voix que j'ai dans la tête qui me disent pas des trucs très cool. Je vais faire le travail pour sortir des pensées maniaques et obsédantes, répétitives, qui me réveillent et qui m'empêchent de dormir. Je vais essayer de réussir à retrouver de l'amour pour moi-même. J'en ai plus trop, là. Mais je sais que ça va revenir, mais j'en ai pour Mickaël de l'amour, énormément. Et c'est ce qui m'a frappée quand ça a eu lieu, c'est à quel point, en fait, dans mon malheur, j'avais la chance de l'avoir, lui, et à quel point je l'aime. Et je l'aime, voilà, ça c'est fou, quoi. Et peut-être que cette épreuve nous rendra plus forts. Ça fait déjà une demi-heure que je parle. Je sais pas si je sortirai cet épisode. C'est peut-être banal. En fait, ça arrive souvent, mais c'est plus dur quand ça arrive après le deuxième mois vers la fin que quand ça arrive au début. C'est plus dur. Je suis très impatiente dans la vie. Je fais beaucoup d'erreurs. Mais j'essaie de faire de mon mieux. J'y arrive pas toujours. Parfois, je trouve que c'est un peu dur, quoi. Tout. Je trouve que tout est dur. Je trouve que c'est violent, quoi. En ce moment, tout. Je vous remercie de votre patience et de votre écoute. Je vous embrasse.
Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.